Roi Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 mai 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait très rapidement être testé, annonce l'OMS.
Au Mali, le nouveau président français Emmanuel Macron, aujourd'hui sur la base de Gao, aux côtés de ses soldats.
Par ailleurs, Paris envisage un renforcement de son action au plan politique et sécuritaire en Libye, a indiqué hier le Quai d'Orsay.
Inculpation de deux Gambiens en fuite pour l'assassinat en 2004 à Banjul de notre confrère Deida Haïdara.
Ici à Washington, le président Donald Trump a de nouveau démenti catégoriquement avoir exercé des pressions sur l'ex-directeur du FBI pour arrêter une enquête sur un conseiller présidentiel.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait très rapidement être testé dans la zone du nord-est de la République démocratique du Congo, touchée par une épidémie. L'OMS dit attendre le feu vert de Kinshasa. Le point avec Solange Nyamulisa.
Il n'existe pas pour l'instant de vaccin homologué pour se protéger contre le virus Ebola. Selon l'OMS, il existe un vaccin candidat prometteur dont les stocks pourraient être acheminés en quelques jours en RDC si Kinshasa l'autorise. Dr Peter Salama, directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, a déclaré que les préparatifs sont en cours. Il pourrait éventuellement lancer une campagne de vaccination si toutes les conditions sont remplies. Le pays fait face à sa 8e épidémie d'Ebola depuis 1976. La maladie a été détectée dans une zone isolée du Bas-Ouélé. Selon l'OMS, 2 cas ont été confirmés, 18 autres sont suspects et 3 personnes sont mortes. Il s'agit de la première flambée depuis l'épidémie d'Ebola qui avait fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés dans 3 pays en Afrique de l'Ouest.
Au Mali, le nouveau président français Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur la base de Gao pour donner une nouvelle dimension à l'engagement militaire de la France présente depuis 4 ans pour lutter contre les djihadistes. Il s'agit là de son premier déplacement hors d'Europe.
Monsieur Macron veut non seulement marquer sa détermination à poursuivre l'engagement au Sahel, mais aussi l'inscrire dans une coopération renforcée avec l'Allemagne. Il entend encore compléter l'action militaire par une stratégie d'aide au développement, a indiqué son entourage, comme le réclament d'ailleurs des organisations humanitaires.
En Côte d'Ivoire, les mutins qui réclamaient le paiement de primes en début de semaine sont certes rentrés dans les casernes, mais le gouvernement veut limiter les dégâts. Le chef d'état-major des armées s'est rendu hier à Boaké et a demandé le pardon pour la mort d'un ex-rebelle démobilisé tué par les mutins, Abdourahmane Dia.
Cet ex-rebelle a été tué au quartier général des démobilisés par des mutins qui ont ouvert le feu sur eux. Les mutins leur reprochaient de revendiquer des primes similaires aux leurs et ainsi de mettre en péril leurs propres revendications. Devant une centaine de démobilisés, le général Sékou Touré s'est dit choqué et a présenté les excuses de toute l'armée. Le général tenait ainsi à désamorcer un incident et calmer les démobilisés, furieux après les propos du maire adjoint de Boaké, accusant notamment leur porte-parole de vouloir les mener au suicide. Les démobilisés avaient dénoncé une différence de traitement, estimant n'avoir perçu que 800 000 francs CFA lors de leur démobilisation, tandis que les mutins bénéficient de 12 millions de francs CFA de primes. Le général Touré a promis de transmettre leurs doléances au président Alassane Ouattara. Les démobilisés ont donc renoncé à leur menace d'entamer une grève de la faim.
Deux Gambiens en fuite ont été inculpés jeudi pour l'assassinat en 2004 à Banjul du journaliste Deida Haïdara. Le journaliste, critique envers le régime de Yahya Jammeh, alors au pouvoir, a été tué par balle le 16 décembre 2004 à Banjul. Ce sont les premières mises en examen dans ce dossier. La justice gambienne a par ailleurs émis un mandat d'arrêt visant un ex-ministre de l'Intérieur, recherché dans une procédure distincte sur la mort d'un ancien chef des services de renseignement, Daba Marena, et d'autres personnes.
Au Nigeria, l'agence de l'ONU chargée de l'aide alimentaire a dénoncé hier une situation humanitaire désastreuse dans le nord-est du pays, Près d'1 800 000 personnes sont menacées par la famine dans cette région et le groupe Boko Haram bloque les efforts pour leur porter secours. Le point avec Tatiana Mosso.
Ils sont au Nigeria, au Sud-Soudan, en Somalie et au Yémen et souffrent de famine dans la pire crise que nous ayons vue depuis 50 ans. C'est en ces termes que l'agence de l'ONU en charge de l'aide humanitaire s'est exprimée. Plus de 20 millions de personnes vivent dans des zones frappées par la sécheresse. Le nord-est du Nigeria aurait pu moins en pâtir sans la présence des troupes de Boko Haram. Sur place, le Programme alimentaire mondial a apporté une aide à 1,2 million de personnes au bord de la famine. Il reste 600 000 autres personnes menacées près des frontières avec le Niger et le Tchad, mais elles sont inatteignables à cause du conflit. Boko Haram s'est répandu et ne cesse de menacer les zones frontalières avec des centaines de milliers de personnes déplacées au Niger, au Tchad, au Cameroun et des millions du Nigeria. Le PAM a besoin de 230 millions de dollars pour un programme allant de mai à octobre pour venir à bout de la famine.
La France envisage un renforcement de son action au plan politique et sécuritaire en Libye, plongée dans le chaos et en proie à la menace terroriste, a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères. La Libye a besoin de bâtir une armée nationale avec la participation de toutes les forces qui luttent contre le terrorisme à travers le pays, incluant celle du général Haftar, sous l'autorité du pouvoir civil, a souligné le porte-parole du Quai d'Orsay.
Un pas de plus a-t-il été franchi dans la lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée? En tout cas, la Libye a demandé à l'Italie d'armer les vedettes des gardes-côtes libyens. Claire Morin-Gibourg.
La demande a été faite dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre l'immigration clandestine. Après la réception lundi dernier de 4 vedettes réparées en Italie, Abdallah Toumia, le président de la commission libyo-italienne de lutte contre l'immigration clandestine, s'est plaint que ces vedettes ne soient pas équipées d'armes. « Nous ne pouvons pas patrouiller avec, en présence de trafiquants de plus en plus armés », a-t-il déclaré, rappelant que son pays était toujours sous un embargo sur les armes imposé par l'ONU. Hier, 120 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été sauvés par les gardes-côtes libyens au large de Garabouli, à l'est de Tripoli, après avoir été dépouillés du moteur de leur canot pneumatique par un groupe armé. Selon le HCR, plus de 24 000 migrants sont arrivés de Libye en Italie pendant les 3 premiers mois de l'année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump, adoptant un ton de défi, a démenti catégoriquement avoir exercé des pressions sur l'ex-directeur du FBI, James Comey, afin de mettre un terme à l'enquête sur Michael Flynn, l'ex-conseiller présidentiel en sécurité nationale. Monsieur Trump a par ailleurs exprimé des doutes sur la nécessité de nommer un procureur spécial pour enquêter sur une possible collusion entre la Russie et des membres de sa campagne électorale dans une tentative d'influer sur la présidentielle de 2016.
Le président Trump a limogé la semaine dernière M. Comey, suscitant tollé, et mercredi, le ministre adjoint de la Justice a nommé un ancien directeur du FBI, Robert Mueller, pour le poste de procureur spécial. M. Trump donnait hier sa première conférence de presse depuis le 12 avril, à l'occasion de la visite à la Maison-Blanche de son homologue colombien, Juan Manuel Santos. Il maintient que toute cette affaire russe n'est qu'une chasse aux sorcières qui, a-t-il déploré, divise le pays.
À New York, un ex-militaire américain avec un casier judiciaire a renversé en voiture des piétons sur Times Square, faisant un mort et 22 blessés, dont 7 dans un état critique. Rien n'indique qu'il s'agissait d'un acte terroriste, a déclaré le maire de New York, ajoutant que l'enquête se poursuit et que les autorités ont renforcé la présence policière à certains endroits clés.
Les arrestations de clandestins ont augmenté de près de 38% pendant les 100 premiers jours de la présidence Trump par rapport à la même période de 2016, selon de nouveaux chiffres publiés par la police fédérale des frontières. Précision de John Linden.
Entre le 22 janvier et le 29 avril 2017, les agents de la police d'immigration ont arrêté plus de 41 318 personnes sans papier ou soupçonnées de l'être, contre 30 028 pour la même période en 2016, a indiqué l'agence. Près des trois quarts avaient déjà été condamnés, dont plus de 2 700 pour des crimes violents, a précisé l'agence. près de 11 000 personnes, n'avaient aucun casier judiciaire, soit une augmentation de près de 50%. C'est ce que dénoncent les associations de défense des immigrés et de nombreux maires démocrates qui estiment que ces clandestins sans casier judiciaire ne devraient pas être inquiétés. Malgré cette hausse des interpellations, les expulsions de clandestins n'ont pas augmenté pour l'instant. Il faut savoir que la procédure entre l'arrestation et la déportation peut durer parfois jusqu'à 6 mois. Donald Trump avait pendant sa campagne promis d'expulser les quelques 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis. Il a signé depuis janvier plusieurs décrets pour durcir la politique de l'immigration.
Les Iraniens ont commencé à voter aujourd'hui dans une présidentielle qui oppose le président modéré sortant, Hassan Rouhani, au religieux conservateur Ebrahim Raisi. Pour ce scrutin auquel 56,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, le choix au travers des deux candidats se fait entre la poursuite de l'ouverture au monde voulue par Rouhani et la préférence nationale prônée par Raisi. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Sénégal, la concurrence supposée déloyale figure au top des contraintes des industriels, selon une enquête de la Direction de la Prévision et des Études économiques en mars. Les chefs d'entreprise évoquent également les difficultés de recouvrement des créances comme principale contrainte à leur activité. Bonne nouvelle, les hommes d'affaires interrogés ont pour la plupart déclaré une hausse mensuelle de la production de plus de 7 points. En République du Congo, une nouvelle unité de production industrielle agroalimentaire va être construite à Pointe-Noire. Ce projet est composé d'un moulin qui devrait produire quelques 70 000 tonnes de farine de blé, une usine d'alimentation animale située dans l'enceinte portuaire et un élevage de plus d'un million de poussins en périphérie de Pointe-Noire. 70 emplois directs et une centaine d'emplois indirects seront ainsi créés. Émission de bons du Trésor au Burkina, le Faso a collecté hier avec succès 40 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA. Pour réduire la quantité d'eau en bouteilles importées du Cameroun, la Centrafrique vient de se doter d'une nouvelle usine capable de produire 12 000 bouteilles d'eau par jour.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
CAN des moins de 17 ans au Gabon, deuxième journée.
Les matchs du groupe B avaient lieu hier. Tanzanie-Angola, notamment les jeunes Tanzaniens qui s'imposent 2-1. Ils occupent ce matin la première place du groupe B, ex aequo avec les jeunes Maliens, puisque les Aiglons se sont imposés 2-1 face au Niger. Maliens et Tanzaniens occupent donc la première place du groupe B. Le Mali qui jouera son prochain match contre l'Angola, déjà éliminé, le Niger face à la Tanzanie. On rappelle que les deux premiers du groupe se qualifieront pour les demi-finales et aussi la Coupe du Monde de la catégorie.
Tennis Masters de Rome.
L'américaine Venus Williams, 12e joueuse mondiale, s'est qualifiée hier pour les quarts de finale du tournoi de Rome grâce à sa victoire en 3-7, 6-1, 3-6, 6-1 sur la Britannique Johanna Konta. Quant au Suisse Stanislas Wawrinka, 3e joueur mondial, il a été battu en 8e de finale du tournoi de Rome par l'américain John Isner, 24e au classement ATP. Le score 7-6, 6-4. En quart de finale, Isner affrontera le Croate Marin Cilic, 8e joueur mondial, qui a nettement battu le Belge David Goffin en 6-3, 6-4.
NBA, championnat de basketball nord-américain, aucun match la nuit dernière.
La superstar de Cleveland, LeBron James, se figure dans l'équipe type de la saison 2016-2017 pour la 11e fois de sa carrière, égalant ainsi le record détenu par Kobe Bryant. C'est ce qu'annonce la NBA, la Ligue nord-américaine de basket. James, qui dispute à 32 ans sa 14e saison NBA, a été plébiscité par les 100 journalistes spécialisés qui votent chaque année avec 99 voix. Le triple champion NBA est le 3e joueur après Kobe Bryant et Karl Malone à être sélectionné dans le 5 majeur de la saison 11 fois. LeBron James qui revient sur les parquets la nuit prochaine pour le deuxième match entre Boston et Cleveland. C'est la suite de la finale de la conférence Est.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le nouveau président français Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur la base de Gao au Mali pour donner une nouvelle dimension à l'engagement militaire de la France présente depuis 4 ans pour lutter contre les djihadistes. Il s'agit là de son premier déplacement hors d'Europe. C'est pour aider les forces armées maliennes à arrêter la progression des groupes terroristes et à les repousser, tout en assurant la sécurité des populations civiles, aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale et sa souveraineté, que l'opération Serval a été lancée en janvier 2013. Elle a été transformée en force Barkhane pour stopper le terrorisme. Les Maliens doutent de la force de frappe de Barkhane, car les terroristes poursuivent leurs attaques sur l'ensemble du territoire. Écoutons ce que certains Maliens ont dit à Kassim Traoré.
L'opération Serval, dont est ici Barkhane, a été lancée en janvier 2013 par François Hollande pour aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale et sa souveraineté. Mais de nos jours, tel n'a pas été le cas, car l'État malien n'est pas présent à Kidal.
Moi, je m'appelle Bintou Traoré. Pour moi, la présence de la force Barkhane au Mali, plus précieusement au nord, n'a pas sa raison d'être, quoi. Ils sont venus pour gérer la crise. Jusqu'à présent, rien n'a bougé. La force malienne n'est pas jusqu'à présent au Kidal. Et ils sont venus pour instaurer la paix. Cette paix-là, on est loin, très loin de l'atteindre. La France voit son intérêt. La France ne veut pas que Kidal soit libéré. La France ne veut pas que la force malienne soit à Kidal. Peut-être que ça peut compromettre ce qu'ils visent là-bas.
Barkhane a remplacé Serval pour stopper le terrorisme. Elle a mené des opérations comme l'élimination d'une vingtaine de terroristes dans la forêt de Foulsaré à la frontière Mali-Burkina le 31 mars dernier. Mais cette opération ne semble pas convaincre certains Maliens.
Alassane Cissé, observateur de la scène, les premières heures de l'occupation des régions d'Ondi du Mali, vraiment l'intervention des forces françaises est à vraiment féliciter. Mais après ça, on a remarqué que vraiment la force Barkhane au niveau du nord, il y a toujours des attaques. Pourtant, ils sont présents sur le terrain. Mais moi, je vois que vraiment, ça n'a pas d'impact sur l'insécurité qui est en train de régner, qui est en train de gangréner au niveau du nord là-bas.
D'après notre confrère Boubacar Païtao, Barkhane mène peu d'opérations. Elle est moins visée par les attaques terroristes.
La situation sécuritaire au Mali et particulièrement au nord du pays ne s'est pas du tout améliorée. Les attaques se sont intensifiées. 3 ans après, le constat est là. La situation s'est considérablement dégradée. Et je suis désolé aujourd'hui de dire que pour la plupart de nos compatriotes, Barkhane n'est qu'une force d'occupation.
Certains Maliens veulent voir la force anti-terrorisme Barkhane en train de traquer les terroristes et autres djihadistes nuit et jour.
Car 3 ans, ils sont là, on voit rien, une raison valable, aucun résultat dont ils l'ont fait aujourd'hui. Vu les attentats, les mines déposées par des djihadistes partout, il y aura des populations plutôt diront qu'ils sont complices de leurs actes. Par contre, même les observateurs, ils vont penser aussi qu'ils sont là pour leurs intérêts, car on voit aucun résultat.
Pour d'autres Maliens, comment on peut espérer au Mali que Barkhane stoppe le terrorisme alors que, quels qu'en soient les plans sécuritaires mis en place, l'État français et les autres pays européens n'arrivent pas à prévoir ou empêcher les attaques terroristes sur leur propre territoire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Niger, des mesures viennent d'entrer en vigueur dans plusieurs zones de régions de Tillaberi et de Tawa, dans l'ouest du pays, en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali voisin. Une quinzaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation de voitures et motos a été interdite dans ces zones. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement.
Le gouvernement a pris des mesures pour l'état d'urgence dans ces régions-là, parce qu'elles sont confrontées à l'insécurité. Aujourd'hui, il n'y a ni moto ni voiture qui circulent dans ces régions-là, comme ça s'est passé au fort moment de la lutte contre Boko Haram au sud du pays.
Mais y a-t-il une certaine réticence de la part des habitants, pensez-vous, face à de telles mesures qui paraissent assez draconiennes? Parce que là, justement, on est en train de parler de nombreux marchés ruraux fermés et de la circulation de voitures et de motos interdites, et même de manière permanente dans certains cas.
Oui, vous savez, le gouvernement n'a pas tenu compte de certains effets, notamment la fermeture de ces marchés et de ces boutiques, ce que ça peut engendrer sur le vécu de population aujourd'hui. Le Niger actuellement traverse une crise alimentaire dans beaucoup de régions et le gouvernement n'a pas tenu compte de ces aspects-là quand on appuie ces mesures d'état d'urgence dans ces régions. Il y a des djihadistes qui font des infiltrations dans cette bande qui va de Tawa aussi le long de la frontière avec la région de Tillabéri. Donc ces populations vivent des moments difficiles face à ces mesures du gouvernement.
Des mesures difficiles mais importantes.
Oui, elles sont importantes pour la sécurité, mais en amont, quand on prend ces genres de mesures, on informe les populations, il faut les aider, il faut leur apporter du soutien. Comme ça s'est passé par le passé dans la région d'Agadez et aussi à Diffa, il faudrait que le gouvernement, les autorités nigériennes fassent un effort pour appuyer ces populations qui aujourd'hui n'ont plus de marché, les boutiques sont fermées, la circulation est interdite dans ces régions-là, c'est des zones frontalières avec des va-et-vient le long de ces frontières-là, ça permet un échange économique avec certains pays frontaliers. Donc le gouvernement n'a pas pris de mesures idoines à atténuer les souffrances des populations face aux conséquences de cet état d'urgence-là.
L'ONU dit avoir répertorié 34 attaques perpétrées depuis février 2016 par des groupes armés dans les régions de Tillabéri et Tawa. Pensez-vous que ces mesures vont vraiment pouvoir aider à affaiblir ces groupes?
Non, pas du tout. Ces mesures ne vont pas affaiblir ces groupes-là qui sont très mouvants et qui se fondent dans les populations. Donc moi, je pense que c'est d'autres choses plus réfléchies qu'il faudrait faire.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement, il était joint à Niamey, au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En RDC, les Kasaïens ont tenu à souligner que l'insécurité dans le Kasaï ne peut être une raison pour ne pas enrôler les électeurs ou pour reporter les élections, soit dans la région, soit dans le pays. Un groupe de dignitaires du Kasaï l'ont fait savoir au président de la CENI. Eddie Sango a joint à Kinshasa le député de l'Union démocratique africaine originelle, Claudel André Lubaya.
Sa déclaration, la position de la CENI de ne pas enrôler les Kasaïens était à la fois un scandale et une violation délibérée de la Constitution. Nous en sommes convenus qu'il est impossible mathématiquement, techniquement et politiquement d'enrôler et d'élire sans le Kasaï.
Le président de la CENI vous a-t-il confirmé qu'à ce point il était impossible d'enrôler dans le Kasaï?
Il ne l'a pas dit. Il a dit que dans l'état actuel, il était possible de lancer les opérations d'enrôlement dans le Kasaï et que il plaidait, il sollicitait du gouvernement avec lequel il travaille déjà dans le cadre du groupe stratégique de sécurisation des élections pour que très rapidement les dispositions soient prises pour entamer l'enrôlement. D'autant plus que le matériel est déjà déployé sur l'ensemble de ces trois provinces.
Mais le chef de la section de la CENI dans la région a été décapité et les matériels destinés à l'enrôlement emportés ou détruits par les miliciens?
Non, d'abord il faut dire que le chef de la section de DKC qui avait été décapité ne l'a pas été dans le cadre de ses responsabilités de membre de la CENI ou responsable de la CENI, non. C'était comme un simple passant qui avait été croisé sur la route et c'était à 400 km du territoire. Il se trouvait sur le territoire de Demba et donc c'était loin de sa juridiction de DKC. Ça c'est un. Deux, les matériels qui ont été incendiés à Luebo n'ont pas été incendié comme matériel de la CENI. C'était simplement un saccage d'un entrepôt qui avait été trouvé. Ça n'a pas été visé directement comme matériel de la CENI. Et c'est ce que nous avons fait savoir au président de la CENI, que le fait, par contre, d'avoir déclaré qu'il n'était pas possible d'organiser l'enrôlement et les élections au Kasaï, c'est ça, par contre, qui peut exposer, qui peut entamer la sécurité et du personnel de la CENI et du matériel.
Mais la période prévue pour l'enrôlement tire à sa fin si l'on devrait tenir à l'échéance de décembre 2017.
Pour besoin d'équité, nous avons fait savoir au président de la CENI qu'il avait la responsabilité d'organiser l'enrôlement pendant 90 jours, 90 jours, comme ça a été le cas dans d'autres provinces, et que rien ne pouvait justifier que l'enrôlement se déroule uniquement ailleurs et pas au Kasaï, ça c'est un, mais de deux, le Kasaï ne pouvait pas servir de prétexte ni au report des élections, ni au retard de celles-ci.
Claudel André Loubaya, député de l'Union démocratique africaine originelle.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le président Donald Trump commence demain son premier voyage à l'étranger, un périple de 9 jours au Moyen-Orient et en Europe. Pour ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est une rupture nette avec l'approche de son prédécesseur Barack Obama. La première escale est l'Arabie Saoudite, où le président américain va tenter de redynamiser la coalition musulmane sunnite contre l'Iran. Le point avec Lionel Gahima.
Durant sa campagne, Donald Trump se plaignait de l'Arabie Saoudite. Il a même été accusé d'islamophobie après ses menaces d'interdire l'entrée aux États-Unis des voyageurs venant de ce pays à majorité musulmane. Maintenant, il a choisi Riyad comme première étape symbolique de son premier voyage à l'étranger. L'Arabie Saoudite abrite les deux lieux les plus saints de l'islam et c'est là-bas où nous allons commencer à bâtir une nouvelle base de coopération et de soutien avec nos alliés musulmans pour combattre l'extrémisme, le terrorisme et la violence. Pour M. Trump, c'est une chance de se défaire de son image anti-musulmane. À Riyad, il va s'adresser à des rois, émirs et présidents de 54 pays musulmans sunnites. Son message, les États-Unis seront à vos côtés contre un pouvoir considéré hostile dans la région, c'est-à-dire l'Iran. Le général McMaster, conseiller à la sécurité nationale.
Il va encourager nos arabes et musulmans partenaires.
Nous allons encourager nos partenaires arabes et musulmans à prendre des mesures fortes pour promouvoir la paix et confronter ceux comme le groupe État islamique, Al-Qaïda, l'Iran et le régime de Bachar al-Assad qui perpétuent le chaos et la violence qui ont amené autant de souffrances à travers le monde musulman et au-delà. Les associations de défense des droits de l'homme ont critiqué Donald Trump pour avoir reçu des leaders musulmans autoritaires comme l'Égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le Turc Recep Tayyip Erdogan. C'est une rupture brutale avec l'approche de son prédécesseur Barack Obama qui avait pris ses distances des leaders sunnites à cause des questions des droits de l'homme. Robert Sutloff, directeur exécutif de l'Institut du Proche-Orient à Washington. Quand il a été au Caire, il a fait un grand discours, non pas vers les leaders arabes, mais directement vers les populations du Proche-Orient. Donald Trump a une approche différente. Il va s'adresser aux dirigeants avec qui il peut traiter directement. C'est son choix. Ce que M. Trump va leur dire, c'est justement ce que veulent entendre les leaders sunnites, le Saoudien Ali Shababi, expert à la Fondation Arabe à Washington. Il va envoyer un message disant qu'il comprend que les alliés musulmans, les musulmans alliés de l'Amérique, sont la première ligne de défense contre le terrorisme, pour empêcher l'Iran d'être belliqueuse et profiter davantage du chaos au Proche-Orient pour faire avancer ses ambitions politiques. Après Riyad, Donald Trump ira en Israël, puis au Vatican. Il se rendra au sommet de l'OTAN à Bruxelles et au sommet du G7 à Catane, en Sicile, avant de rentrer à Washington.
Salut,
les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sebulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.